Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Encore une fois, nous retournons dans notre épître pour cette série « Sans reproche à son retour ». Et c'est la première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est le chapitre 2. Et le titre du message ce matin s'intitule « Le pasteur modèle et son ministère ». Alors, comme vous pouvez constater, premièrement, ce message est pour moi. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais simplement définir le mot « pasteur » pour que nous puissions avoir une bonne compréhension de ce que nous allons discuter plus tard. Le mot veut simplement dire « prendre soin »,« nourrir ». Et en étant un des responsables de l'Assemblée ici au Cap-de-Madeleine, c'est un des chapeaux que les anciens portent. Vous allez constater que la Bible parle des hommes qui sont en place dans la direction de l'Église. Ils portent trois chapeaux. Le chapeau d'ancien qui parle de sa maturité. L'apôtre Paul, quand il justement donne des recommandation, il demande que ce soit par un nouveau converti. Alors, c'est le chapeau justement d'un homme qui a une certaine maturité. Et aussi le chapeau d'évêque, qui veut dire surveillant. Et vous allez voir, c'est un terme qui est utilisé dans 1 Timothée chapitre 3, où est-ce que Paul va donner tous les qualificatifs que la personne qui désire et qui aspire justement à cette charge d'évêque devrait avoir. Alors, ça veut dire simplement surveillant. Mais aussi le mot pasteur qui veut dire prendre soin. Prendre soin, justement, du troupeau du Seigneur. Le Seigneur, c'est le grand pasteur, le souverain berger. Et il a confié, justement, ses brebis à des sous-pasteurs. Et ça, c'est la signification de ce mot. Mais il y a aussi un autre contexte. Ce n'est pas seulement dans une église locale que vous allez trouver un ministère pastoral. Savez-vous que si vous êtes marié, vous êtes le pasteur de votre épouse? Dans Éphésiens, le Seigneur dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. » Et là, il continue. L'homme devrait, le mari devrait aimer sa femme comment? Comme sa propre chair, parce que jamais personne n'a haï sa propre chair, mais quoi? Il la nourrit et en prend soin. Pasteur, prend soin de son épouse. Si vous êtes parent aussi, vous avez un rôle pastoral à jouer en élevant vos enfants dans la crainte du Seigneur. Si vous enseignez à l'école du dimanche, vous prenez soin des enfants, vous jouez aussi un rôle pastoral dans ce contexte. Si vous occupez les jeunes le vendredi soir, encore là, vous avez un rôle pastoral à jouer. Si vous faites justement les camps d'été, nous avons entendu de beaux témoignages de Gabriel, les moniteurs, les monitrices, le staff qui est là, vous prenez soin aussi des enfants, vous jouez aussi un rôle pastoral. Et j'en passe, il y a plusieurs applications. Alors ce matin, je voulais élargir alors ce thème. Bien sûr, dans le texte, principalement, on parle d'un pasteur, un ancien, un évêque dans l'église locale. Mais il y a aussi des applications en général pour différents contextes. Alors écoutez bien, parce que je me parle à moi-même, mais aussi il y a des choses pour vous. Et la question que nous devrions poser ce matin, alors comment est-ce que nous sommes en train d'exercer ce ministère? Comment faire en sorte que, et le titre de notre série, sans reproche à son retour, quand le Seigneur reviendra et il examinera nos œuvres, nous allons entendre de sa bouche, et je suis certain que chacun de vous aimerait entendre cela, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin. Comment est-ce que nous pouvons, dans ce rôle de pasteur, dans ce rôle de travail pastoral, faire en sorte que nous allons avoir l'approbation du Seigneur? Et pour cela, je vous invite, alors, on va lire notre texte pour ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. Paul va dire ceci: « Vous savez, vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais... puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste, et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et nous allons arrêter là pour le moment. Nous verrons les autres versets plus tard. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser avec quatre aspects d'un ministère fructueux, parce que je suis convaincu que chacun de vous, dans ce rôle justement que vous remplissez, et surtout ici à l'Église, dans l'équipe de responsables, nous voulons tous porter fruit. Nous voulons que ce que nous sommes en train soit fructueux. Alors ce matin, j'aimerais vous laisser avec quatre aspects d'un ministère fructueux. Tout d'abord, on va parler de la sphère du ministère. Et c'est assez basique pour commencer, c'est être à la bonne place. Et Paul va dire ceci, si vous regardez encore votre texte au verset premier, il va dire ceci: vous savez, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et parfois, je pense que Paul avait des racines québécoises. C'est un peu comme on se lève un bon matin, il fait moins 30. Et au lieu de dire il fait froid, qu'est-ce qu'on va dire en bon québécois? Il fait pas chaud. Il fait pas haut. Hein? Fait que Paul va dire la même chose, il va dire que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Il aurait pu dire simplement, comme nous sommes arrivés chez vous, on a eu des résultats, mais il dit non, sans résultat. Je pense qu'il y a une raison pour cela. Il veut qu'on s'arrête et on se rend compte que le ministère et l'endroit où il est devrait justement avoir du fruit. Alors, tout de suite, quand vous voyez le négatif, Paul est en train de dire, hop, nous sommes venus chez vous à Thessalonique et notre ministère là a porté fruit. Et c'est exactement ce que Dieu veut de chacun de vous et surtout pour l'équipe pastorale ici dans cette église. Dans Jean, chapitre 15, au verset 16, le Seigneur a dit ceci à ses disciples, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi dans un premier temps afin que vous croyiez, vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Le Seigneur, dans sa sagesse et dans sa grâce, a placé chacun des membres du corps dans un endroit précis, spécifique. Et si vous êtes à la bonne place, c'est là que le Seigneur va œuvrer en vous et à travers vous. Nous avons entendu ce matin comment le Seigneur est en train d'œuvrer en Gaspésie à travers notre frère et sa famille, toute l'équipe qui est là-bas. Alors, être à la bonne place est le point de départ d'un ministère fructueux. C'est important d'être à la bonne place. Les opportunités sont illimitées. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec quelqu'un qui est à la bonne place et qui a justement ce désir et de bien remplir son ministère que le Seigneur lui a confié? Mais il y a autre chose. Le texte continue. Il va dire ceci, Paul, après avoir souffert, et reçu des outrages à Philippe. Et là, il faut se rappeler qu'Actes chapitre 16, avant d'arriver à Thessalonique, Paul et ses compagnons, Silas, étaient à Philippe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Paul dit ici, on a reçu des outrages. Paul rentre dans cette ville avec la puissance de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu est à l'œuvre, on dérange justement le royaume des ténèbres. Et comme quelqu'un a bien dit, où est-ce que Dieu agit? Le diable réagit. Alors Dieu donne les opportunités pour le service, pour le ministère, mais j'aimerais vous aussi dire ce matin que quand il y aura les opportunités, vous êtes à la bonne place, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, soyez pas surpris. S'il y a de l'opposition, pourquoi? Parce que vous dérangez justement le royaume des ténèbres. Et à Philippe, justement, Paul et Silas, vous connaissez l'histoire, ont reçu des outrages, ils ont été battus, jetés en prison et ainsi de suite. Et de Philippe, ils sont allés à Thessalonique. Et là, ils ont continué le ministère. Et j'aimerais vous dire que ce matin, que ça, c'est une des évidences que vous pouvez savoir et d'être certain que vous êtes à la bonne place. Quand vous dérangez l'ennemi, c'est certain qu'il va réagir. Et je vous donne ici trois exemples. David a été choisi comme roi d'Israël. Et si vous lisez les premiers chapitres de 2 Samuel, vous allez voir que c'est comme s'il ne peut rien faire de mal. Victoire après victoire après victoire après victoire. Et là, on arrive à 2 Samuel, chapitre 11. Dans le temps où est-ce que les rois se mettaient en guerre, David demeura à Jérusalem. Et l'ennemi, à travers sa chair, l'a fait tomber dans le péché. David n'était pas à la bonne place. Élie, dans 1 Roi chapitre 18, vous allez voir, il y a une victoire éclatante sur les prophètes de Baal. Il est en train de remplir un ministère extraordinaire. Il dérange justement le royaume des ténèbres. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il reçoit des menaces de mort. Jézabel, cette femme du roi arabe, envoie des messagers pour dire Élie, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie, comme tu as fait aussi pour les prophètes qui avaient tout zigogné. Et lors, qu'est-ce que nous lisons? Que voyant cela, Élie se lève et il s'en va pour quoi? Sauver sa vie. Voyez les attaques de l'ennemi. Pierre aussi, il a renié le Seigneur. Là, il porte une poids de culpabilité. Pour moi, probablement, il y a honte. Comment celui qui avait dit au Seigneur, « Si tous les autres vont te renier, jamais je ne te renier, je suis prêt à mourir même pour aller en prison avec toi. » Et pourtant, il a renié le Seigneur 3 fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur l'avait appelé. « Suivez-moi, je vous ferai quoi? Pêcheur d'hommes. » Jean chapitre 21, qu'est-ce qui arrive à cause de l'opposition? Pierre dit, je vais pêcher. Là, il retombe à ce qu'il faisait avant. Dans sa tête, c'était terminé, c'était fini. Et qu'est-ce qui arrive aussi? Il influence d'autres, Nathaniel et les autres. Il dit, nous aussi, nous allons avec toi. Alors voilà, opposition face aux opportunités. Mais revenons au Seigneur Jésus-Christ, parce que celui est notre modèle par excellence. J'aimerais vous laisser avec cela. Lui aussi était à la place que Dieu avait choisie pour lui, en train d'exercer un ministère que le Seigneur lui avait confié. Et voilà aussi comment l'ennemi vient l'attaquer. Luc chapitre 4, Satan lui-même, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir, etc. Les attaques, justement pour le faire, abandonner la place que le Seigneur lui avait donnée. Même à travers Pierre, Pierre avait toutes les bonnes intentions. Le Seigneur, il annonce sa mort. Et le Seigneur dit, non, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Arrière de moi, Satan. Il voyait, le Seigneur était, il avait ce discernement pour voir que l'ennemi l'attaquait à travers même un de ses propres disciples. Et par la foule, ça c'est l'exemple par excellence sur la croix, en train d'exercer ce ministère que le Père lui avait donné. Un ministère qui aujourd'hui porte encore des fruits. Vous êtes, nous sommes justement les évidences de ce ministère. La foule est là. Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, descends de la croix, quitte cet endroit où est-ce que tu vas porter le plus de fruits et nous allons croire en toi. Et le Seigneur a résisté. Mais revenons à nos moutons. On va parler de Paul et ses compagnons. Ils ont dit ceci, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu au milieu de bien des combats. Et ça, c'est important, parce que vous allez être attaqué si vous êtes là où est-ce que Dieu vous soyez, en train d'exercer le ministère que Dieu vous a donné. Vous allez être attaqué, ça c'est sûr, c'est sûr. Et Paul dit, nous avons, malgré ce qui est arrivé à Philippe, ils sont allés à Thessalonique sachant qu'il aurait pu dire, écoute, j'en peux plus, tanné. Et il dit, nous avons pris l'assurance au milieu de bien des combats. Et le texte nous dit quels sont ces combats, mais très souvent, quand cela arrive, on se remet en question. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que? Et là, Paul, il faut qu'il retourne à deux choses. J'aimerais vous suggérer qu'il y avait deux choses qu'il a gardées au bon endroit. La conviction de l'appel en Actes chapitre 9, Dieu avait dit à Ananias qui est allé voir Paul, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il n'a pas arrêté là. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors Paul se rappelle, écoute, je suis à la bonne place. Il y a des attaques, mais c'est là que le Seigneur m'a appelé, je vais rester là. Et aussi, c'est un combat continuel, parce que si vous lisez Actes chapitre 18, il s'en va à Corinthe. Et encore une fois, il faut que le Seigneur réaffirme cet appel parce que le Seigneur va apparaître à Paul dans une vision pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Paul, ne crains pas. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il y avait des craintes. Parle et ne tais pas et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ce n'est pas facile. Tu annonces l'évangile sachant que chaque fois que tu le fais, tu vas y goûter. Là, le Seigneur confirme cela. Il donne justement, il dit, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle et ne te tais pas. Quel exemple pour nous. On a vu le Seigneur, on a vu Paul. Et je parle au Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsemane, je pense aussi, là, il y avait un combat. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors, ce matin, je vous pose la question. Êtes-vous à la bonne place? Sommes-nous à la bonne place? Est-ce que à cause de l'opposition, nous avons délaissé la place que le Seigneur nous a donnée? Est-ce que nous sommes en train d'y penser? On n'est pas encore rendu là, mais l'opposition est tellement féroce et dure qu'on songe même à délaisser la place que le Seigneur nous a laissée. J'aimerais vous encourager ce matin. Vous voyez, je reviens à l'histoire de Pierre. Pierre avait laissé la place, il est allé à la pêche, et le Seigneur le rencontre. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur est tellement gracieux. Hein? Pour Pierre, c'était terminé. Oublie l'histoire de disciples, oublie l'histoire de pêcheurs d'hommes, j'ai gaffé, c'est fini. Et là, le Seigneur le rencontre et il dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Trois fois! Et qu'est-ce qu'il dit? Paix mes agneaux, paix mes brebis. J'ai un travail pastoral pour trois Pierre. Et même si tu ne te fais pas confiance, moi, je te fais confiance. Et je suis le Dieu de la énième chance. Lève trois, j'ai du travail pour trois. Et j'aimerais vous encourager ce matin, si vous avez succombé justement à les attaques de l'ennemi, et vous songez justement à laisser cette place, ou vous l'avez déjà laissée, regardez au Seigneur. Pardonnez, purifiez, et il vous remettra aussi sur la bonne voie. Alors, premièrement, pour exercer un ministère fructueux, soyez à la bonne place. Deuxièmement, utilisez les stratégies du ministère, utilisez les bons principes. Regardez votre texte encore, au chapitre 2, au verset 2. Nous avons pris de l'assurance pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Alors, le ministère que Paul va exercer parmi les Thessaloniciens, il est à la bonne place, mais il va utiliser aussi les bons principes. Et il y en a deux. Tout d'abord, la méthode. Nous vous avez annoncé l'évangile de Dieu. Et si vous regardez le chapitre 2, c'est étonnant combien de fois, 8 fois, Paul il va marteler justement cette phrase, l'évangile de Dieu, la parole de Dieu, notre prédication et ainsi de suite. Pourquoi c'est ainsi? Mais j'aimerais vous dire que dans tout ministère, c'est la parole de Dieu qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Et Paul sait, et il va donner justement une place privilégiée dans le ministère. Dans Actes chapitre 20, il s'en va voir les anciens d'Éphèse. C'est la dernière fois qu'il va les voir. Et là, il raconte un peu comment lui, il s'est exercé parmi eux. Il a dit, je n'ai pas craint de vous annoncer quoi? La parole de Dieu publiquement et de maison en maison. Je vous ai annoncé quoi? Tout le conseil de Dieu. Et même quand il est en train de dire ses adieux, qu'est-ce qu'il dit? Je vous recommande à Dieu et à quoi? La parole de sa grâce. Alors, la parole de Dieu devrait avoir cette place privilégiée. Dans l'église, dans votre famille, si vous avez un groupe de jeunes, c'est là la parole de Dieu. Si vous avez un camp d'été avec les enfants, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu de Timothée 3:16 qui nous dit que cette parole et croix était utile justement pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mais il continue et propre à toute bonne œuvre. Alors, vous voulez faire un ministère pour le Seigneur, vous voulez être là où ce que le Seigneur, vous êtes là où ce qu'il vous a placé, vous voulez porter des fruits, votre méthode par excellence, c'est la parole de Dieu. Et même quand vous êtes dans un autre contexte, même dans la famille avec votre épouse, qu'importe, les enfants, c'est la parole de Dieu qui devrait être privilégié. Mais aussi, Paul, il va parler de sa motivation. Combien c'est important, cela. Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, il va dire au verset 4, nous parlons pour plaire à Dieu. Paul était dans ce ministère avec un seul but. Plaire à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il était zélé justement pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement plaire à Dieu? J'aimerais vous suggérer que c'est à cause de son arrière-plan. Si vous lisez dans un autre texte, Paul va se rappeler ce qu'il était avant de devenir chrétien. Il dit, j'étais un homme violent. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Il dit que lui, c'est un homme là, qui était tellement zélé pour sa religion. Il était pharisien, il était juif. Et voilà, il y avait justement le christianisme qui était là, qui faisait justement opposition à tout ce qu'il croyait. Et dans sa tête, il pensait qu'il avait le devoir de détruire justement ce qu'on appelait à l'époque un secte. Il n'y est pas allé avec des demi-mesures. C'était un homme, là, même quand il n'y avait plus de chrétiens à persécuter à Jérusalem, il est allé à Damas pour en chercher d'autres. Tellement il voulait les éradiquer. Et là, Dieu le rencontre sur le chemin de Damas. Et Paul est foudroyé, puis une conversion radicale. Et là, le Seigneur fait une chose qui nous surprend. Il prend cet homme qui cherchait à détruire son peuple et dit, tiens, tu vas devenir un apôtre. Un apôtre. Et même pas seulement un apôtre, mais tu vas être celui qui va amener mon nom au loin, partout. Et Paul, quand il pense à cela, il dit, waouh! Je pense que les neurones ont sauté dans sa tête. Il n'en revenait pas. Et toute sa vie, n'importe où y aller, c'était simplement, je veux plaire à cette grâce que le Seigneur m'a donnée. Je dois plaire à Dieu. Ça, c'est ta motivation. Et là, il fait un parallèle, parce que dans ce ministère, je peux vous dire, et vous êtes au courant aussi, là, il y a tellement de pièges. Et quelle tristesse, combien d'hommes aujourd'hui qui sont dans le ministère, mais pas avec la bonne motivation. Et Paul va les énumérer, je vais assez vite, à l'égard de la parole, il dit, on n'a pas usé de fraude ou d'erreur. À l'égard des autres, des paroles flatteuses s'imposaient. À l'égard de soi-même, les motifs impurs. Le mot ici a une connotation sexuelle. La cupidité pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire des hommes. Et c'est triste que souvent, les chrétiens fidèles au Seigneur et les gens à l'extérieur regardent des soi-disant serviteurs de Dieu qui tombent dans ces pièges et qui blasphèment le nom du Seigneur à cause de cela. Vous, les chrétiens, tout ce que vous voulez, c'est de l'argent. Il y a eu des scandales, un scandale sexuel avec un tel et un tel. Et là, le nom du Seigneur est terni à cause de ça. Et Paul a dit, non, moi, je n'étais pas avec ce gang-là. Ma motivation était pure. J'ai voulu simplement faire plaisir au Seigneur. On nous raconte une histoire. Il y avait un jeune missionnaire qui était en Chine. Et là, il travaillait, il faisait son travail. Et là, il avait été remarqué par une compagnie pétrolière à cause de ses talents. C'était un jeune homme qui était très talentueux. Et là, le personnel, justement, des ressources humaines s'est approché de lui et dit, écoute, on t'a vu à l'œuvre, puis on aimerait justement que tu viennes travailler pour nous. Et là, ils l'ont offert une somme d'argent assez considérable. Et là, le jeune homme a refusé. Alors, dans leur tête, ils ont dit peut-être, c'est pas assez, là. On va lui offrir un peu plus. Et encore une fois, le jeune homme a refusé. Et là, ils ont dit, écoute, on va doubler notre offre. Et encore, il a refusé. Mais là, il ne comprenait rien. Là, ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on ne t'a pas offert assez d'argent? Et écoutez bien sa réponse. Il a dit ceci, ce n'est pas que la somme d'argent que vous m'offrez n'est pas assez grosse. C'est une grosse somme d'argent. Mais c'est parce que l'emploi que vous m'offrez, il est trop petit. Il a dit, je suis serviteur du roi des rois. Et Mon travail consiste à le servir fidèlement jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà la motivation de cet homme. Voilà notre, devait être notre motivation. Alors, être à la bonne place, utiliser les bons principes. Troisièmement, être la bonne personne. Mais là, on dit ça souvent. On va avoir la bonne personne à la bonne place. Il y a deux choses là-dedans. Dans un premier temps, Paul dit ici, nous aurions voulu non seulement vous donner l'évangile de Dieu. Et pour être capable de donner l'évangile de Dieu, il faut avoir l'aptitude. Et surtout, dans le contexte d'un responsable dans l'Église qui prend soin du peuple de Dieu, il faut que cet homme ait cette aptitude, comme 1 Timothée 3, 2 nous dit, l'évêque, l'ancien, le pasteur doit être propre à l'enseignement. Ça veut dire apte à étudier, à enseigner plutôt. Et 2 Timothée 2, 15, Paul il va dire à Timothée, efforce-toi. C'est pas juste se prendre ta Bible et lire 5 minutes, puis dire, ah, j'ai fait mes devoirs. Non, non, non. Prendre soin, utiliser la parole de Dieu pour soigner le peuple, ça prend des efforts. Bien comprendre et communiquer la parole de Dieu exige beaucoup de temps et de grands efforts. Et quelqu'un a raconté cette histoire. Un jeune homme est allé voir John MacArthur. Il a dit, j'aimerais être capable de prêcher comme vous. Et John MacArthur lui a dit, écoute, va dans ta chambre avec ta Bible, mets-toi à genoux, passe au moins 5 heures pendant la semaine, pendant 4 ou 5 jours, et le dimanche matin, tu vas prêcher comme moi. Cette aptitude exige, comme je dis, beaucoup de temps et de grands efforts. Mais aussi, il y a un autre aspect, il y a l'attitude. Et Paul va combiner les deux. Parce que juste garrocher, comme on dit en bon québécois, la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Paul va revenir ici aussi, il a dit, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu vous donner notre propre vie. Et dans le contexte encore pastoral, que vous soyez un parent, que vous soyez dans votre foyer, ici à l'église, dans l'équipe pastorale, il faut ici avoir l'amour qui combine avec cela. Si quelqu'un est convaincu que vous l'aimez, il va être plus porté à écouter qu'est-ce que vous allez lui dire. Et Jean, chapitre 10, le Seigneur a dit ceci, « Je suis le bon, on dit berger, dans l'original, c'est pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis et le sacrifice. » Et Galates 2, 20, Paul va dire ceci, « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, ce travail ici, surtout dans le contexte d'une église, s'exige un sacrifice. À la bonne place, oui, justement, utiliser les bonnes méthodes, mais être la bonne personne qui est prête, justement, à l'instar du Seigneur Jésus-Christ, à se sacrifier pour le peuple de Dieu. De temps et des efforts dans l'étude, mais aussi pour prendre soin du peuple de Dieu. Et il y a deux choses ici, dans un temps, c'était tellement beau, comment est-ce que l'apôtre Paul agence des deux? L'amour d'une mère. Il dit, nous étions comme une nourrice. Et ça, je ne l'ai pas. Dans le sens que les femmes, vous avez cette tendance naturelle. Ça, les hommes, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais les hommes, et c'est pourquoi Paul utilise l'exemple ici d'une mère qui aime son enfant et qui va la chérir. Et même, elle est prête à se sacrifier. Combien de fois on entend les histoires où est-ce que les mères, dans les familles qui n'ont pas assez de nourriture, et la mère va servir les enfants avant elle-même. C'est cette idée que Paul est en train de dire. Le sacrifice même de mettre l'autre avant toi. Tant que vous nous étiez devenus chers, on avait cet amour pour vous. Mais il y a une contrepartie aussi. Un cœur de père. Parce que parfois, très souvent, dans le ministère pastoral, il faut aller voir des enfants de Dieu et leur dire des choses qui ne font pas tellement leur affaire. Mais la parole de Dieu nous dit de quoi dire la vérité dans l'amour. Et aimer quelqu'un, ce n'est pas de lui dire tout ce qu'il veut entendre. C'est avoir assez d'amour pour la personne pour le dire, justement. Mon frère, ma sœur, il y a des choses chez toi que tu dois corriger. Ça, c'est l'amour. Et Paul a dit ici, on vous a exhorté, on vous a consolé, on vous a conjuré de marcher d'une manière digne de Dieu. Et Proverbe 3:12 nous dit ceci, « L'Éternel corrige celui qu'il aime comme un père l'enfant qui est quoi? Chéri. » Jésus nous a donné l'exemple par excellence de cela. Au tombeau de Lazare, un cœur de mère, il pleure. Et qu'est-ce que les gens disent? Voyez combien il aimait. Mais avec ses disciples, quand était le temps de les corriger parce qu'ils discutaient en chemin, lequel parmi eux sera le plus grand? Le Seigneur est allé justement pour les corriger. Et finalement, le succès dans le ministère, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On a parlé de cela. Paul a dit, j'arrive chez vous et mon ministère n'a pas été sans résultat. Bonne place, les bonnes méthodes, bonne personne va donner des bons résultats. Et rapidement, je finis avec cela. Il va dire ceci, vous l'avez reçu, quoi, la parole, comme elle est véritablement comme la parole de Dieu. Le ministère de Paul chez les Thessaloniques a produit une église modèle. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la parole de Dieu était mise à la première place. Il y avait une soumission à la parole de Dieu. Deuxièmement, il y avait aussi le progrès à cause de la parole, il y avait la sanctification. Paul va dire ici, vous avez reçu la parole de Dieu, mais qui agit en vous et qui croyait. Il y avait une transformation dans cette église. Les gens grandissaient, il y avait une croissance spirituelle. Et ça, c'est ce qu'un ministère fructueux donné par les leaders va produire plutôt. Et à cause aussi, la troisième chose, il y avait la persécution à cause de la parole. Ils étaient à la bonne place. Ils faisaient la bonne chose. Pourquoi? Il y avait la persécution. Et il va leur dire ici, vous avez souffert aussi de la part de vos compatriotes. Alors, cette église reflète ce qu'elle a vu chez Paul et les compagnons et ainsi glorifie Dieu. Quelqu'un a bien dit, une église ne peut jamais être plus spirituelle que les leaders. Alors, ça, c'est une responsabilité énorme pour le leader d'une église. Alors, je termine avec ceci, priez pour nous. Toute l'équipe pastorale en a besoin de vos prières. Et en retour, moi, je prie pour vous autres. Et si ce matin, vous n'êtes pas à la bonne place, vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur, vous n'êtes pas à la bonne place. Ça, c'est sûr. Où est la bonne place? C'est au pied de la croix. Jésus, mort pour nos péchés. Moi, je suis pécheur. Je mérite la mort et la condamnation. Jésus, par amour, a pris ma place. Quelle bonne nouvelle. Prions. Seigneur, on te demande maintenant de simplement prendre ta parole et l'appliquer à nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit, afin que tu sois glorifié. Et on demande ces grâces au nom de Jésus. Amen. Dans 2 semaines... notre frère Denis Gay va continuer le pasteur modèle et son ministère, deuxième partie.
Merci beaucoup, Trevor, pour ton temps et tes enseignements.